Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Tiffaine de Requini et Garance Munoz, mais aussi Samuel Bernard et Marguerite Caton, réalisée par Benjamin Hu et mise en onde ce matin par Théo Gomard. Suite de notre série consacrée au phénomène migratoire et aux défis qu'il pose à nos démocraties européennes, lundi nous parlions des crises politiques induites par cette incapacité de l'Union à faire face ensemble à la gestion des migrants et des réfugiés. Hier nous évoquions ces velléités de plus en plus affirmées de confier à des pays tiers la gestion de flux migratoires aux dépens d'un droit international régulièrement bafoué. Aujourd'hui nous allons nous intéresser aux efforts déployés pour intégrer les réfugiés à nos sociétés. De Berlin à Stockholm, le défi de l'intégration, c'est notre sujet ce matin. Dans Culture Monde.
Je le dis, l'Allemagne est un pays fort. L'angle sous lequel nous devons aborder la question est le suivant. Nous avons accompli déjà tant de choses que nous y arriverons.
J'ai commencé à apprendre l'allemand il y a 2 ans et j'ai suivi ces cours à l'université. Et aujourd'hui, je suis vraiment contente de pouvoir travailler à nouveau avec des enfants. C'est un vrai plaisir.
Alla s'est beaucoup investi personnellement pour y arriver et nous investissons beaucoup pour qu'elle y arrive. Mais cela en vaut la peine pour notre région et cela en vaut la peine pour elle. Nous y gagnons une enseignante et elle un emploi. C'est gagnant-gagnant.
Je pensais qu'il me faudrait au moins 5 ans pour maîtriser la langue et pour m'y retrouver professionnellement. Je suis moi-même surprise d'avoir réussi à achever tout ça en 2 ans.
Wir schaffen das, nous y arriverons, voilà ce que promettait Angela Merkel le 31 août 2015, au plus fort de la crise migratoire qui plongeait déjà l'Union européenne dans la discorde. Une phrase devenue le slogan de la Willkommenskultur, la politique d'ouverture de l'Allemagne et qui a valu à la chancelière d'être élue personnalité de l'année par le Time en 2015. Cette année-là, ce sont près de 1,2 million de demandeurs d'asile qui débarquent en Allemagne, plaçant le pays face à un défi inédit, celui d'intégrer les nouveaux venus, arrivés pour la plupart de Syrie, d'Irak ou encore d'Afghanistan. 3 ans plus tard, l'Allemagne a-t-elle réussi son pari? Quel premier bilan peut-on tirer de la politique d'accueil et d'intégration de Berlin? La France peut-elle, doit-elle s'inspirer de ce modèle? Et d'ailleurs, à quoi ressemble-t-il? Nous allons voir que finalement, il n'existe pas un modèle d'intégration allemand, mais plusieurs, et que les politiques d'accueil varient énormément en fonction des landers et des municipalités. Et puis, on se penchera également sur le cas suédois et sur le cas britannique, qui font souvent office de référence en Europe. On aurait dû commencer par évoquer l'Allemagne, mais on n'a pas encore notre invité qui doit être en duplex de Berlin, Sophie Inger, on la retrouvera dans quelques instants. On va du coup commencer avec la Suède, parce que au plus fort de la crise migratoire en 2015, lorsque certains pays fermaient leurs frontières, d'autres se montraient particulièrement accueillants, et c'était le cas justement de la Suède.
Nous sommes 28 États membres avec plus de 500 millions d'habitants. Si nous avions traité le problème ensemble, nous aurions mieux fait face. Mais la réalité, c'est qu'il y a eu quelques pays qui en ont pris la plus grande responsabilité, la Suède en faisant partie. Nous avons accueilli plus de réfugiés par habitant que n'importe quel autre pays. Nous avons vraiment pris notre part. Avec cette augmentation forte du nombre de réfugiés, nous ne pouvions pas tous les accueillir, je veux dire, leur offrir un abri, un toit sur leur tête. Cela affecte aussi le système scolaire et d'autres dimensions du système.
Voilà, Stefan Löfven, le Premier ministre suédois, qui disait que son pays avait évidemment pris une bonne part des réfugiés. On va retrouver Anne-Françoise Hiver de Malmö, qui est journaliste au Monde, correspondante en Scandinavie. Anne-Françoise Hiver, alors on va commencer par quelques chiffres. En 2015, 163 000 demandes d'asile ont été déposées en Suède. C'était 2 fois plus qu'en France. Pendant une période, il y avait plus de 1 000 personnes qui arrivaient chaque jour. Or, ce qui a été absolument remarquable du côté de la Suède, c'est que personne n'a dormi dehors. On a ouvert des centres et des camps pour les mettre à l'abri. Très vite, le gouvernement a mis en place un système de quotas qui obligeait les communes à prendre une part de ces migrants, de ces réfugiés. Il faut saluer quand même la détermination dont on a fait preuve du côté de la Suède. À partir du moment où on avait décidé d'accueillir, on a pris les mesures et on s'est donné les moyens. Sauf que assez vite, au début de l'année 2016, le gouvernement suédois a décidé de durcir sa politique migratoire et de fermer ses frontières. Pour quelle raison? Le gouvernement, Anne-Françoise Hivert, a considéré qu'on avait atteint les limites de ce qu'on pouvait faire en termes d'accueil?
Si vous rappelez, effectivement, la Suède a accueilli 160 000 personnes en 2015. Elle en avait déjà accueilli plus de 350 000 dans les 5 années précédentes. Donc, c'était la suite. Ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, septembre, octobre, on parle beaucoup de l'obligation morale de la Suède d'accueillir ces gens qui fuient la guerre, des retombées économiques également pour le royaume. Et puis, effectivement, comme vous le disiez, tout d'un coup, il en arrive 10 000 par semaine. L'administration a du mal à suivre l'exigence. Ici, c'est qu'on fournisse une place effectivement à toutes les personnes qui arrivent. Et au mois de novembre, certains sont placés dans des gymnases. L'office d'immigration n'arrive plus à suivre, n'arrive plus à enregistrer les demandes. Et c'est un peu la panique. En même temps, il y a des débats dans le reste de l'Europe sur cet accueil. On se rend compte en Suède que le pays est un des seuls à continuer d'accueillir les gens. On craint un appel d'air. L'extrême droite, à ce moment-là, monte aussi dans les sondages. Donc ça inquiète d'autant plus. Et effectivement, donc en novembre, le gouvernement, donc qui est composé des sociaux-démocrates et des Verts, annonce qu'il va limiter les arrivées et le 4 janvier 2016, les frontières sont fermées.
Alors, on va revenir sur cette montée de l'extrême droite, mais si on fait un peu un bilan de l'intégration de ces réfugiés qui sont arrivés en 2015 et même avant, est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'ils sont bien intégrés? Est-ce que certains ont pu avoir un travail, avoir accès à des formations? Est-ce que les enfants vont à l'école? Au fond, quel est le résultat de cette intégration?
Alors, pour ceux qui sont arrivés en 2015, c'est encore trop tôt pour le dire. Il a fallu attendre assez longtemps pour que leur demande soit traitée par l'administration. Ceux qui ont obtenu des titres de séjour ont été placés dans des communes. Ils suivent des programmes d'établissement qui durent 2 ans, qui sont chapeautés par l'Agence nationale pour l'emploi. Donc, pour cela, c'est un peu tôt de tirer des conclusions. Les enfants, effectivement, sont à l'école. Les gens sont logés. Ça, c'est un principe de base en Suède. Les écoles, d'ailleurs, ont fait un effort absolument incroyable puisqu'elles ont été capables d'accueillir tous ces enfants qui débarquent. Il faut rappeler qu'il y avait aussi 35 000 mineurs non accompagnés qui sont arrivés en 2015. Pour ce qui est de ceux qui sont arrivés plus tôt, alors un problème qui est assez important pour la Suède, c'est l'intégration sur le marché du travail. C'est un marché du travail qui est très régulé avec, comme vous le savez sans doute, la présence des syndicats qui contrôlent le règlement de ce marché du travail. Donc très longtemps, il a fallu 7 ans en moyenne pour la moitié des personnes arrivées une année pour obtenir un CDI. Cette période est en train de diminuer. On voit que la situation économique est très bonne en Suède en ce moment. L'intégration des personnels étrangers s'accélère. On parle maintenant de 5 ans au lieu de 7 ans en moyenne. Une augmentation aussi des gens qui se retrouvent en formation ou en CDD après les programmes d'établissement. 40% contre 30% l'année dernière. Donc les chiffres sont plutôt bons de ce côté-là.
Alors visiblement aujourd'hui, on est en plus en train de discuter en Suède de la possibilité de créer des petits emplois assez peu qualifiés qui permettraient justement aux réfugiés de mettre un pied dans le marché du travail. Il y a une autre initiative intéressante, très récente, c'est ce Parlement qui vient de faire voter une loi à destination des demandeurs d'asile arrivés en tant que mineurs isolés en 2015. Certains étaient sous le coup d'une éventuelle expulsion. Là, on a un nouveau texte qui va leur permettre de déposer un nouveau dossier à condition qu'ils entreprennent des études. Mais vous dites que, précisément, ce texte a fait l'objet d'un bras de fer politique absolument terrible au sein du gouvernement entre les sociaux-démocrates partisans d'un durcissement des conditions d'accueil et les Verts qui, eux, sont favorables, disons, à une politique plus généreuse. La politique migratoire, elle fait aujourd'hui l'objet de divisions très fortes au sein du gouvernement.
D'autant plus que nous avons des élections législatives, communales aussi d'ailleurs et régionales le 9 septembre. Donc c'est un des sujets qui domine totalement la campagne électorale. Et c'est un problème pour la gauche, mais aussi à droite d'ailleurs. Les partis ne sont pas d'accord sur les règles. Le parti vert a créé son identité sur sa politique écologique, mais aussi sur une politique d'asile, de migration accueillante. Et pour la première fois, il participe au gouvernement en 2014. La crise migratoire intervient en 2015. Et là, il a été forcé d'avaler une série de couleuvres qui ont provoqué une crise au sein du gouvernement. Le départ de sa porte-parole, d'ailleurs, c'était l'année dernière, 2016, pardon. Donc ça a été très très tendu ces quatre dernières années, surtout ces trois dernières années entre les deux parties. Et le cas de cette loi, loi lycée qu'on appelle pour les mineurs isolés qui vont pouvoir rester ou faire une nouvelle demande à condition qu'ils suivent des études, c'est un des exemples les plus probants avec les sociodémocrates qui ont finalement cédé à la demande des Verts, qui ne sont pas du tout contents de la loi qui devrait avoir une application assez limitée finalement.
Vous disiez, Anne-Françoise Hivert, il va y avoir des élections législatives en septembre prochain et le parti d'extrême droite, les démocrates de Suède, pourrait y faire une percée. Vous avez publié très récemment un article dans Le Monde à ce sujet et vous expliquez que bien pendant longtemps, les Suédois ont pensé que leur pays était différent, était une exception, était plus, au fond, plus hermétique au discours des populistes. Peut-être que cette chose-là est en train de changer, peut-être que l'exception suédoise est en train de s'effriter. Il faut s'attendre à quel score, là, aujourd'hui, de ces démocrates de Suède? Ils pourraient participer au prochain gouvernement? C'est une possibilité?
Non, ça c'est hors de question, pour les quatre années qui viennent, pour les années suivantes probablement aussi. On peut s'attendre à une vingtaine de pourcents dans les sondages. Ils ont obtenu 12% en 2014. Ils ont chaque élection doublé leur score. Donc 2014, 12%. Aujourd'hui, à 20% dans les sondages, on table sur des résultats très, très, très élevés. Aucun bloc de gauche ou de droite ne voudra gouverner avec eux, ça c'est sûr et certain. Il faut rappeler quand même que c'est un parti qui a ses racines dans la mouvance néo-nazie et c'est encore quelque chose dont on se souvient. Par contre, ce qui a changé, c'est le refus total, il y a encore quelques années, non pas de gouverner avec eux, mais même de s'appuyer sur leur vote au Parlement. Donc la droite et la gauche ont quand même passé un accord en 2014, fin 2014, pour garantir qu'ils n'auraient aucune influence sur le vote du budget et sur la création d'un gouvernement en Suède.
Sauf que cet accord est tombé en quelques mois.
Un accord qui a volé en éclats très rapidement parce que c'était pas tenable et surtout parce que les militants, notamment à droite, trouvaient ça absolument lamentable en pensant que leur parti n'était pas prêt à gouverner, même s'il fallait s'appuyer sur les votes des démocrates de Suède en disant que finalement les démocrates de Suède, ils avaient des électeurs qui étaient tout à fait respectables, même s'ils votaient pour eux. Donc ça a changé, ça a évolué. La droite d'abord, les conservateurs, c'est quelque chose qui crée aussi des divisions au sein de la droite, parce que tous les partis ne sont pas du tout d'accord sur cette possibilité. Mais on voit quand même que le leader des conservateurs, Ulf Kristersson, va aux élections en restant très très flou sur la possibilité ou non de s'appuyer sur les démocrates de Suède. Il dit qu'il ne cherchera pas à collaborer avec eux. Mais on a du mal à imaginer que les démocrates de Suède, si effectivement servaient à soutenir son gouvernement, ne présentent pas des exigences.
Et comment la gauche répond un peu à tout ça, à ce défi? Parce qu'il y a évidemment tout ce discours qui est en train de monter. Vous le disiez, 18%, 20% d'intention de vote pour l'extrême droite, les démocrates de Suède, avec ce discours selon lequel le pays serait en déliquescence. On explique que l'arrivée massive de migrants altère l'identité suédoise, que c'est un risque... ça pourrait ruiner l'économie du pays. Est-ce que l'actuel gouvernement donc de centre-gauche arrive un peu à faire front? Est-ce qu'on essaye de mettre en avant? Vous parliez du bilan économique tout à l'heure de ce gouvernement qui est excellent. L'économie aujourd'hui se porte bien. Il n'y a quasiment pas de chômage, en tout cas très peu. Il est même en recul. On a une bonne croissance. Tout va très bien. Est-ce qu'on arrive à produire un contre-discours quand même? Ou est-ce qu'il y a une hystérisation autour de cette question migratoire?
Non, c'est ça qui est très étrange, c'est que le gouvernement n'arrive pas et n'essaie pas. C'est une stratégie et c'est une des responsabilités des sociodémocrates. Des sociodémocrates qui donc sont à 28% dans les sondages, ce qui paraît haut d'un point de vue français peut-être, mais pour la Suède, c'est un score historiquement bas. Et donc, qui ont décidé clairement de tenter de regagner les votes des électeurs partis vers les démocrates de Suède en changeant totalement de stratégie. Autant il était hors de question de s'aligner sur l'agenda, sur le débat fixé par les démocrates de Suède, l'extrême droite, autant le parti flirte avec la rhétorique quelque part de l'extrême droite sans se rapprocher du tout du parti, mais en essayant, en présentant un programme très sécuritaire, très dur sur l'asile, donc notamment les mesures qui ont été adoptées en 2015-2016 pour limiter l'arrivée des demandeurs d'asile, permis de séjour temporaire au lieu d'un permis de séjour permanent, limitation au regroupement familial, etc. C'était des mesures qui devaient être temporaires. Les sociodémocrates ont annoncé qu'ils voulaient les pérenniser. Les déboutés ne pourront pas redéposer une demande d'asile avant 8 ans au lieu de 4 ans aujourd'hui. Donc on est dans ce discours en permanence. Et alors ce qui est assez extraordinaire, c'est que, peut-être pas surprenant finalement au vu de ce qui se passe ailleurs en Europe, c'est que ça ne réussit absolument pas aux sociodémocrates qui continuent de baisser dans les sondages.
Merci beaucoup à vous, Anne-Françoise Hivert. Je rappelle que vous étiez avec nous depuis Malmö, que vous êtes journaliste au Monde, correspondante en Scandinavie. Alors, on n'a pas encore tout à fait notre... Ah si, on me fait signe... Non, on me fait signe que non, finalement. Voilà, c'est les joies du direct. On devrait normalement retrouver Sophie Inger en duplex de Berlin. On l'a pas encore. Donc, je vous propose qu'on écoute Vincent Latour. Hein, on va faire ça. Voilà, on va faire ça. Parce que c'est vrai qu'on a souvent opposé le modèle multiculturaliste britannique au modèle assimilationniste français. La France, a-t-on beaucoup entendu, avait énormément à apprendre de son voisin en matière de politique d'intégration, politique qui passe au Royaume-Uni par le fait de favoriser, bien sûr, et de laisser s'exprimer les différentes communautés. Mais c'est oublié que ce modèle multiculturaliste au Royaume-Uni, il fait l'objet de multiples débats, particulièrement depuis les années 2000. Malgré les critiques, le tour de vis de la politique migratoire britannique, alors que le pays continue de représenter un Eldorado pour les migrants, quel bilan peut-on tirer de l'intégration au Royaume-Uni? Eh bien, c'est Tiffaine Norokini qui a posé la question à Vincent Latour, qui est professeur de diversité à Toulouse. Jean Jaurès, on l'écoute.
Le multiculturalisme a été en fait un multiculturalisme souvent de fait, c'est-à-dire que contrairement à ce que l'on a vu dans d'autres pays, en Allemagne c'est quelque chose qui a été tardif, hein, puisque c'est au tournant des années 2000 qu'on a commencé à parler du multiculti, donc il n'y a pas de constitution à proprement parler au Royaume-Uni, hein, comme vous le savez, il y a un certain nombre de textes qui font référence, donc ça a été un multiculturalisme de fait dans lequel on est entré finalement progressivement dans les années 80, mais sur la base en fait d'une matrice mise en place dès le milieu des années 60. Mais il n'y a pas eu, si vous voulez, ça n'a pas été quelque chose de totalement assumé. Alors le multiculturalisme, multiculturalism sont des termes qui se sont popularisés au tournant des années 80, qui dans les années 70, à la fin des années 70, étaient utilisés dans certains cercles militants. Mais ce sont des termes que l'on a utilisés sans toujours expliquer ce qu'il y avait derrière. C'est-à-dire qu'il y a la notion descriptive, et effectivement le Royaume-Uni, comme tous les pays occidentaux, est une nation diverse, hein, du fait des migrations, donc à ce titre multiculturel, au même titre que la France d'ailleurs, ou les grands pays d'immigration en Europe, de ce point de vue-là.
Mais il y a aussi la notion prescriptive.
La notion prescriptive, c'est ça, les politiques. Alors ça, ce sont des politiques, effectivement, qui sont mises en place. Alors d'abord, ça a été par le biais de l'égalité des chances, effectivement, et la lutte contre la discrimination. Ce sont des domaines dans lesquels le Royaume-Uni s'est illustré à partir des années 60, et puis de manière de plus en plus précise, dans la seconde partie des années 70, avec des notions comme la discrimination directe et indirecte, le recours, lorsque c'était nécessaire, à ce qu'on appelait la positive action, qui était effectivement employée au niveau du niveau local de gouvernement, c'est-à-dire les municipalités. On a pensé qu'effectivement, le multiculturalisme était probablement le meilleur moyen d'intégrer les immigrés. Et dans ce processus d'intégration, le gouvernement, les autorités locales, le système éducatif, bien sûr, jouaient un rôle, mais les communautés elles-mêmes étaient des acteurs à part entière.
Mais ce modèle a été largement remis en cause à partir de 2001, au moment où il y a eu des émeutes interethniques très importantes, et plus encore en 2005, après les attentats islamistes.
C'est ça, oui, ça a été remis en cause, mais en fait, du point de vue du discours, parce que dans la pratique, lorsqu'on regarde comment les choses se sont passées sur le terrain, on se rend compte que, justement, le rôle de médiateur que pouvaient jouer certains leaders communautaires, le rôle des communautés, n'a pas été fondamentalement remis en question. Sur le terrain, les choses sont restées largement influencées par le multiculturalisme, mais elles ont été teintées de considérations sécuritaires, antiterroristes, et on a essayé de promouvoir à nouveau l'intégration ou le vivre ensemble, pour employer un concept français dont on parle pas mal, qu'on a appelé Community Cohesion en fait au Royaume-Uni, hein, qui est un concept qui avait été rapporté du Canada par la commission Canto en 2001 et qui mettait l'accent sur les failles d'une certaine façon du multiculturalisme, qui cherchait à les réparer en facilitant les contacts et l'interaction entre les différentes communautés présentes au Royaume-Uni. Donc c'est ce cadre-là qui a effectivement évolué, qui s'est métamorphosé, mais comme il s'était métamorphosé depuis les années 60 finalement. On ne parlait pas de multiculturalisme, mais on est arrivé au multiculturalisme par l'antiracisme, par la lutte contre la discrimination, et puis dans les années 80, on avait mis davantage l'accent sur les cultures en fait issues de l'immigration. Donc il y a eu des métamorphoses avant, il y en a eu effectivement depuis le début des années 2000, du fait de la montée du terrorisme à l'extérieur, puis effectivement au Royaume-Uni. Mais je pense que si modèle il y a, ce modèle-là n'a pas été fondamentalement remis en question.
On comprend bien, Vincent Latour, que ce modèle dit multiculturaliste n'a cessé de se métamorphoser. Et si les observateurs ont pu estimer à de nombreuses reprises qu'il avait échoué, ce que l'on constate aujourd'hui, c'est une intégration plutôt réussie des différentes communautés et même de celles dont on pensait qu'elles auraient beaucoup plus de mal à s'adapter à la société britannique.
Alors, c'est complexe, parce qu'il y a effectivement des communautés arrivées récemment qui étaient jugées au début des années 2000 comme des communautés problématiques, je pense aux Somaliens notamment, dont on disait qu'ils ne s'intégreraient jamais, et qui montrent des signes d'intégration socio-économique, de bons résultats scolaires. Il y a les Chinois également, dont la présence au Royaume-Uni, enfin en tout cas pour certains d'entre eux, n'est pas très ancienne, et qui ont eu des résultats spectaculaires. Les Hindous qui sont très bien intégrés. Et à côté de cela, effectivement, on a une partie des immigrés, notamment issus du nouveau Commonwealth, certaines communautés qui vraiment peinent à s'intégrer. Je pense notamment une partie de la communauté antillaise, hein, notamment les garçons qui continuent, les études le montrent les unes après les autres, et qui continuent à peiner vraiment dans le système scolaire britannique. On explique par le fort taux de familles monoparentales, par la ségrégation effectivement, la ségrégation d'un certain quartier qui persiste. Bon, il y a une culture qui ne voit pas favorablement l'éducation. Bon, et puis il y a chez les Pakistanais aussi, hein, qui sont intéressants parce que c'est un groupe là aussi historique, hein, puisque depuis l'indépendance en 1947, bon, ben, les premiers Pakistanais sont arrivés depuis la fin des années 40 au Royaume-Uni. Donc on parle d'une communauté très ancienne qui montre à certains égards des signes spectaculaires d'intégration. On pense à Sadiq Khan, le maire de Londres, hein, qui est fils d'immigrés pakistanais et qui est arrivé quand même aux plus hautes fonctions. Donc, chez les Pakistanais, c'est assez compliqué. On dit que pour des raisons culturelles, effectivement, dans les familles les plus conservatrices, les femmes ou les filles ne sont pas encouragées à faire des études. Très souvent, ce sont des familles, je parle des plus conservatrices, hein, je parle des familles où, effectivement, il y a un seul salaire, et où, en fait, la position de la femme fait que ces familles-là se pénalisent et, finalement, ne peuvent pas arriver à, dans un pays où le niveau de vie est aussi élevé que le Royaume-Uni, n'arrivent pas à s'en sortir, parce qu'on n'arrive pas à vivre avec un seul salaire. Mais disons que le résultat est contrasté. Il y a des communautés, effectivement, qui se sont spectaculairement intégrées. Je pense aux Sikhs, je pense aux Hindous, je pense aux Chinois. Je pense à une partie de la communauté nigériane qui est très bien représentée au Parlement, par exemple, hein. Donc ça, c'est quand même un signe d'intégration fort. Et puis, il y a également la multiplication, si vous voulez, de mariages mixtes, hein, d'unions exogames, et qui concernent essentiellement les Britanniques blancs avec effectivement des Noirs de la Caraïbe ou d'Afrique. Donc là, c'est une catégorie de la population britannique, puisqu'on mesure cela précisément avec des statistiques, qui connaît une croissance importante. Et donc, effectivement, l'exogamie est un très bon marqueur d'intégration, voire d'assimilation.
Ce modèle, si tant est qu'on puisse parler de modèle, a aussi des limites. Et à ce propos, je voudrais qu'on évoque le scandale Windrush. Windrush, c'est le nom donné à la première vague d'immigrés issus de l'ancien empire dans les années 40. Or, en mai dernier, les descendants de ces immigrés se sont vus refuser le droit de résidence au Royaume-Uni, alors même qu'ils y vivent depuis des générations. Sous la pression, le gouvernement a finalement fait marche arrière. Mais ça traduit bien, Vincent Latour, les crispations actuelles sur les questions de l'accueil et de l'intégration dans le pays.
Windrush était le nom du premier navire au bord duquel 492 Jamaïcains sont arrivés au Royaume-Uni en 1948. Donc on a gardé ce nom-là et il désigne effectivement les pionniers de l'immigration du nouveau Commonwealth et plus particulièrement dans la première phase les Antillais. Et donc ces gens-là qui étaient britanniques, hein, sont arrivés au Royaume-Uni en pensant qu'ils étaient britanniques. Mais ils ont concouru effectivement à la reconstruction du Royaume-Uni dans les années d'après-guerre. Et donc là, effectivement, dans ce contexte du Brexit, avec une certaine agitation autour de la question de l'immigration, on leur a demandé de prouver leur résidence au Royaume-Uni, même s'ils y étaient arrivés enfants, et même s'ils y étaient depuis 40 ou 50 ans. Donc il y a eu un gros scandale, et le gouvernement a fait marche arrière. Cela a coûté en fait son poste à la ministre de l'Intérieur, Amber Rudd, qui a dû démissionner. Et donc le gouvernement a donné des assurances quant au fait que ces gens pourraient rester, hein. Donc, et ça jetait la suspicion. Donc, si vous voulez, en dépit d'une intégration qui semble vraiment réussie pour une grande partie de ces gens-là, on leur a effectivement demandé des gages d'une certaine façon de britannicité qu'ils ne pouvaient pas apporter, puisqu'à l'époque, effectivement, c'est une époque où ils rentraient de manière facile, et le chef de famille ou les représentants où les couples qui rentraient, effectivement, avaient leur, voyaient leur identité vérifiée, mais pas leurs enfants ou pas leur famille.
Ça laissait entendre que l'intégration n'est jamais vraiment acquise, en réalité.
Ou que leur place n'était pas totalement légitime au Royaume-Uni, c'est ça. En fait, c'est ça, c'est la place, ce qui a choqué les gens, c'est ça. Je pense que c'est la légitimité de leur présence au Royaume-Uni qui semblait remise en cause, malgré toutes les avancées des années 80, 90. La représentation des personnes issues d'immigration au Royaume-Uni, on n'a pas attendu les années 2000 comme en France. C'est quelque chose qui s'est construit, c'est symbolique, certes, mais enfin, c'est important. Dans les années 80, l'entrée des premiers députés issus de l'immigration coloniale dans les années 80, etc., etc. Donc tout cela semblait remis en cause et on semblait indiquer que les immigrés du nouveau Commonwealth n'était pas légitime finalement au Royaume-Uni.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Voilà, Vincent Latour, professeur des universités à Toulouse. Jean Jaurès, il était au micro de Tiphaine de Rocchini. On va pouvoir prendre, ça y est, la direction de Berlin. La liaison est faite avec le duplex. Bonjour Sofinger.
Bonjour.
Bonjour, merci infiniment d'être avec nous ce matin. Vous êtes sociologue à l'Institut pour la recherche sur les migrations et les relations interculturelles de l'Université d'Osnabrück. Vous vous intéressez à la manière dont se fait l'intégration des réfugiés, les modalités de sa mise en application dans les différentes villes en fonction de tous les acteurs qui interviennent. On va commencer quand même, Sofinger, avec quelque chose dont on parle beaucoup en ce moment, c'est la nécessité de mettre en place à l'échelle de l'Europe un système de répartition des réfugiés dans tous les États membres. Or, il faut expliquer que en Allemagne, en réalité, il y a déjà ce genre de système qui rend obligatoire pour les régions, pour les villes, eh bien, l'accueil d'un certain nombre de réfugiés. Je voudrais que vous nous expliquiez comment fonctionne ce système et puis quels sont les critères qui permettent justement de déterminer combien de personnes iront dans tel ou tel land, dans telle ou telle ville.
Oui, tout à fait. On a depuis longtemps déjà en Allemagne ce système de répartition. D'abord à l'échelle nationale et ça suit un quota, dit le quota Königstein, qui est calculé régulièrement sur la base des recettes fiscales de chaque land et également le nombre d'habitants dans chaque land. Alors, il y a une répartition obligatoire. Les landes doivent recevoir ce quota. Alors après, chaque land, comme c'est un système décentralisé, a une propre manière de organiser l'accueil et le logement et d'organiser également la répartition au sein même du land.
Oui, ce qui explique qu'en réalité, il n'y a pas un modèle allemand, mais plusieurs, et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Mais on va faire les choses, on va se mettre d'une certaine manière dans la peau d'un réfugié, Sofinger, et voir au fond le parcours qu'il nous faut faire. Dans un premier temps, ce sont les landers qui ont la charge de ce qu'on appelle le premier accueil des demandeurs d'asile. À quoi est-ce que ça ressemble, ce premier accueil? Quels sont les services, les assistances qui s'activent à ce moment-là? Et puis les acteurs qui sont concernés par cette première étape, qu'est-ce qui se passe au début?
Alors, un réfugié arrive et est placé normalement dans un endroit, dans un lieu d'accueil qui n'a pas choisi. C'est-à-dire, les personnes ne peuvent en aucun mot à dire dans tout ce processus de répartition et se trouvent souvent dans des lieux qui sont très loin des centres urbains, dans des grands centres d'accueil avec des centaines, voire des milliers de personnes. Et qui sont gérés, on le compare souvent au concept de Erwin Goffman, d'une institution totale, qui sont gérés par, d'un côté, les ministères de l'Intérieur de chaque land, mais puis après, des entreprises ou des organisations qui travaillent, pour le land, pour organiser le quotidien dans ces centres d'accueil.
Oui, institution totale, parce que c'est pas simplement du logement, ça va jusqu'à l'organisation de repas, c'est assez régenté, c'est même assez strict, disons-le. Tout le quotidien, finalement, est structuré. Alors, on pourrait trouver ça un peu rigide, mais il y a quand même une qualité à ce système, c'est qu'en Allemagne, les demandeurs d'asile ne dorment jamais dans la rue, comme on peut le voir ici en France, ça n'arrive pas.
Voilà, il y a les deux côtés. Alors d'un côté, on pourrait dire que le système d'accueil marche beaucoup mieux qu'en France si on qualifie le côté de quelqu'un en fait à un toit sur la tête comme un système qui fonctionne. Alors oui, il y a un système en place qui accueille les gens, et à partir de ces centres-là, ils sont renvoyés, ou certains sont renvoyés dans les municipalités où les municipalités organisent un autre type de logement.
Alors,
mais
c'est
vrai que beaucoup se retrouvent longtemps.
Oui. Ça peut être 6 mois environ, hein, je crois que c'est le maximum, hein, pour ces premiers centres d'accueil. Alors, une fois passée cette première phase d'accueil, viennent alors les municipalités. Là, les choses peuvent être très différentes. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu le spectre des options, des solutions d'hébergement qui attendent les demandeurs d'asile à ce stade-là ?
Oui, alors il y a des municipalités qui, depuis l'an... un peu le modèle qui était déjà mis en place par le Land, c'est-à-dire parfois des repas organisés, pas de cuisine, des chambres partagées. Mais de plus en plus, on voit depuis plus ou moins le début des années 2000 qu'il y a des municipalités, comme notamment Leverkusen, qui était un peu la première ville, qui a mis en place un système de logement décentralisé. C'est-à-dire décentralisé, ils ont rendu possible l'accès au logement, à un logement privé, comme tout le monde, pour les demandeurs d'asile, même sans un permis de séjour garantie.
Vous dites à propos justement de cette flexibilité, parce qu'on voit bien qu'en réalité ça varie beaucoup d'une ville à l'autre, vous dites que ce système d'accueil allemand et d'hébergement s'apparente à une loterie. Pourquoi est-ce que vous parlez d'une loterie ? C'est quand même un peu fort, ce Finger.
C'est très fort, mais pour... Alors, si moi je me mets dans la peau d'une personne qui vient pour demander l'asile en Allemagne, c'est vrai que ça ressemble un peu à une loterie. Alors, dans quel land déjà je vais me retrouver ? Après, dans quelle municipalité je vais me retrouver ? Et comme vous dites, il y a des grandes différences entre les municipalités, ce qui concerne toute la structure, toutes les opportunités données à des nouveaux arrivants. C'est-à-dire pour moi, comme réfugié, si je suis placée dans ville A ou dans ville B, ça va avoir un grand impact sur ma vie en Allemagne.
Oui, et ça veut dire aussi qu'on peut avoir des politiques d'intégration différenciées, c'est-à-dire quand on est une municipalité qui a l'ambition d'accueillir, on peut mettre des politiques favorables, et à l'inverse, quand on ne veut pas être solidaire, on peut mettre des politiques qui vont avec. Vous écrivez, je vous cite, « L'obligation de demeurer est aussi un moyen de contrôler les demandeurs d'asile, de faciliter leur éventuelle expulsion, ainsi que de minimiser les contacts et en partant l'éventuelle empathie de la population. » Donc ça veut dire qu'il y a aussi ce désir d'organiser une certaine coupure avec le reste de la population pour éventuellement favoriser les velléités de retour et ou d'expulsion. Donc au fond, ces procédures d'hébergement, ça peut aussi être des manières d'inciter les demandeurs d'asile au retour.
Tout à fait. C'est ce qu'on voit déjà depuis les années 80. Justement, la mise en place de ces grands centres d'accueil par les Landeurs, qui sont souvent très éloignés des infrastructures urbaines, c'était une manière de dire aux nouveaux arrivants « vous n'êtes pas le bienvenu ». Et on peut dire aussi qu'aujourd'hui, alors depuis 2015, il y a deux processus mis en place. Alors d'un côté, on pourrait dire une voie d'intégration accélérée pour certains réfugiés, et de l'autre côté, en fait, une exclusion totale. Et là, on parle aussi d'une exclusion géographique, notamment par des séjours très très loin, très longs dans les centres d'accueil.
Alors, compte tenu de ce que vous nous expliquez, on va faire un tout petit peu de politique, parce qu'on voit que la tension est de plus en plus forte au sein du gouvernement, avec un ministre de l'Intérieur, Horst Seehofer, membre de la CSU, donc les conservateurs bavarois, qui met la pression sur Angela Merkel pour qu'elle durcisse sa politique migratoire. Seehofer, il a lancé un ultimatum à la chancelière pour qu'elle trouve un accord au prochain sommet européen, sans quoi il engagera une politique de refoulement des migrants vers les pays européens d'où ils viennent. Qu'est-ce qui se passe en Bavière précisément ? L'intégration des migrants se passe mal, on ne veut plus les recevoir, les accueillir, c'est ça ? C'est comme ça qu'on peut traduire les choses ?
Pas du tout. Mmh. Tout au contraire, on voit que dans beaucoup de municipalités, dans beaucoup de villes, dans beaucoup de villages en Bavière, on voit une intégration exceptionnelle. Si on entend par intégration une participation aussi des personnes, des nouveaux arrivants.
Sans compter que la Bavière accueille justement un grand nombre précisément de réfugiés, de demandeurs d'asile, parce que c'est une région assez riche.
Oui, bon, comme d'autres, c'est pas le premier land, puisqu'il n'y a pas autant de nombre d'habitants qu'ailleurs. Mais oui, en effet, en Bavière, c'était aussi le land où sont arrivées beaucoup de personnes depuis 2015. Mmh. Alors, on voit des conditions favorables à l'intégration en Bavière. Aussi beaucoup d'initiatives civiles qui se sont mises en place depuis longtemps, mais notamment depuis 2015. Alors beaucoup de projets sur le plan local qui maintenant sont il y a des obstacles qui sont rajoutés et pas éliminés de la part du gouvernement du land et au niveau national qui vont un peu à la rencontre de tout le travail toutes les rencontres aussi qui ont eu lieu depuis 2015 sur le plan local.
Donc si Orsihofer remet là soudainement un peu en cause l'autorité d'Angela Merkel, c'est pas parce que en Bavière ça se passe mal s'agissant de l'intégration des demandeurs d'asile, c'est pour des raisons politiciennes. C'est peut-être à cause des élections régionales qui vont venir.
Sophie. Sûrement aussi.
Ouais. Et vous pensez que vous pensez que cette coalition CDU-CSU, qui a été quand même si difficile à mettre en place, est menacée? Le gouvernement allemand pourrait tomber? C'est une possibilité pour vous?
C'est une possibilité.
Je voudrais qu'on prenne la direction de la Saxe, donc un land qui est frontalier de la République tchèque et de la Pologne.
Quand je dépense un euro, je ne peux le dépenser qu'une fois. Soit je le dépense pour l'aide sociale aux réfugiés, qui pour la plupart ne s'intégreront jamais dans le marché du travail, soit je le dépense pour les crèches et les écoles.
Je ne me sens pas si bien que ça dans la Saxe. Peut-être certains sont nazis, je ne sais pas comment les appeler, mais je sens qu'ils ne veulent pas que les étrangers habitent ici. Mais nous devons rester.
On entendait Eko Essenkemper, qui était le candidat de l'AFD aux dernières élections législatives, qui décrivait en quelques mots comment il compte gérer son budget. Et on entendait également Nadioula Feizi, demandeur d'asile afghan. C'est vrai que l'Allemagne, l'ex-Allemagne de l'Est, Sophie Enger, a reçu moins de nouveaux arrivants que l'Allemagne de l'Ouest. Et pour cause, ce sont globalement des territoires plus pauvres. Et pourtant, c'est là que le rejet de l'immigration y est le plus fort. Les scores les plus élevés de l'AFD, le parti xénophobe, islamophobe, anti-Europe, ont été enregistrés précisément dans ces régions-là. Comment comprendre ce paradoxe? Comment vous l'interprétez-vous?
C'est en effet un peu un paradoxe si on croit dans la thèse de contact, c'est-à-dire qu'en fait quand il y a plus de personnes qui arrivent quelque part, qu'il y a plus de tolérance. Je crois que beaucoup vous l'avez déjà cité, en fait d'abord ce sont des régions souvent qui sont très pauvres, c'est-à-dire les gens ils n'ont pas de travail, ils manquent d'infrastructures. Et également, deuxièmement, il y a des structures de l'extrême droite, des groupes organisés, des groupes anti-européens, des groupes anti-réfugiés qui ont su instrumentaliser les peurs des gens et le canaliser en fait dans le sens des courants anti-réfugiés. Ce qu'on voit d'ailleurs, pas qu'en Allemagne de l'Est.
Absolument, absolument, vous avez raison. Ce n'est pas spécifique à l'Allemagne de l'Est. 2016, l'Allemagne fait passer une loi qu'on a appelée loi d'intégration, qui permettait notamment de faciliter l'accès au marché du travail. On va essayer d'en parler un petit peu. Mais d'abord, est-ce que vous pouvez nous rappeler le contenu exact de ce texte? Et puis, dans une première approximation, quels vous semblent en avoir été les effets?
Là aussi,
si on faisait un premier bilan.
Un peu de... Oui. Alors, le loi dite d'intégration ne suit pas vraiment ce nom-là. En fait, les critiques des personnes qui ont critiqué cette loi ont beaucoup dit que c'était en effet pour beaucoup de personnes une loi de désintégration. Parce que d'un côté, c'est justement ces deux voies que j'ai un peu expliquées tout à l'heure. Alors d'un côté, il y a des possibilités d'une intégration accélérée pour des personnes à qui on donne une bonne perspective de rester. Et cette perspective de de cette bonne ou pas bonne perspective de rester, c'est quelque chose qu'on décide avant même de la décision dans les cas d'asile. Et c'est uniquement basé sur la nationalité. C'est-à-dire certaines nationalités, comme les personnes de la Syrie, de l'Érythrée ou de l'Iran, ont alors une bonne, soi-disant une bonne perspective de rester en Allemagne. Et grâce à ça, alors, selon ce loi d'intégration, ils ont la possibilité de participer dans des cours de langue, de participer dans les cours d'intégration et aussi de trouver un emploi très vite, c'est-à-dire après quelques mois.
Mais toutes ces perspectives, elles sont conditionnées à un certain nombre d'engagements qui sont pris par le nouvel arrivant.
Aussi, voilà.
Il y a des obligations. Lesquelles, justement?
Voilà. Alors, on voit aussi que pour ces gens-là, alors qu'ils ont la possibilité de s'intégrer, l'intégration est beaucoup, de plus en plus formulée comme la participation économique. C'est-à-dire, c'est aussi, on attend de l'individu une certaine performance économique qui, après, garantit l'accès à d'autres droits. Comme justement la sécurité légale, qui pour moi est un droit fondamental pour tous les autres droits, puisqu'on ne peut pas trouver un emploi, faire des études si on ne sait pas si on va encore être là la semaine prochaine. Alors maintenant, c'est l'inverse selon la loi d'intégration. C'est d'abord la performance économique qui ensuite va faciliter, par exemple, le choix d'un logement, l'accès à un permis de séjour qui est plus sécurisé que d'autres statuts de séjour.
Mais vous dites la performance économique, ça veut dire quoi très concrètement? Ça veut dire qu'il faut qu'il trouve un emploi, et si c'est le cas, est-ce qu'on l'aide à trouver un emploi? Parce que je sais que cette loi, quand même dite d'intégration, elle prévoyait la création d'un certain nombre d'emplois qu'on a appelés des emplois à 1 euro. Je crois qu'il y a des dizaines de milliers d'emplois qui devaient être créés, donc des emplois assez peu qualifiés en réalité. Est-ce que ces engagements ont été tenus? Est-ce qu'on a pu leur mettre un peu le pied à l'étrier pour qu'ils rentrent justement dans le marché du travail?
Bon, il y a beaucoup de projets qui ont été mis en place. Je ne crois pas qu'à sur la base de ce projet des jobs en euros pour 1 euro que c'était vraiment un bon pan dans le marché de travail. Ça ressemble plus au petit boulot créé pour les personnes qui reçoivent le Hartz IV en Allemagne. Et c'est un peu dans la même logique d'un workfare state. C'est une phrase en anglais pour expliquer qu'on s'éloigne d'un modèle de welfare pour obliger en fait les personnes de travailler pour après recevoir des bénéfices sociaux.
Mais on a créé ces fameux petits emplois, même s'ils sont critiquables, j'entends parfaitement, mais ils ont été créés.
Ils ont été créés, mais souvent gérés par des personnes dans les municipalités. Ce sont des petits boulots, par exemple, nettoyer les centres d'accueil. Mais ce n'est pas en cela qu'on va vraiment réussir le grand défi d'une intégration dans le marché de travail.
Oui, j'entends parfaitement.
Parce que là, on a.
Est-ce que cette loi aussi, elle oblige les réfugiés à rester 3 ans? Dans le land où ils ont été assignés, sauf s'ils trouvent un emploi ailleurs, pourquoi limiter comme ça la mobilité?
Justement, alors ça fait partie de ces conditions. Alors là où on voit que la performance économique est extrêmement importante pour le choix de pouvoir décider où un réfugié veut vivre. Alors il doit pouvoir payer sa propre maison. Et oui, c'était une mesure d'un côté pour éviter qu'il y a des personnes qui bougent dans. Alors c'est une mesure de contrôle, tout simplement. C'est pour mieux contrôler où se trouvent les personnes. Aussi, il y a toujours cette idée, cette logique de répartition pour dire bon, on va aussi peut-être dans les régions où on perd des gens, puisque les personnes sont âgées, puisque les personnes s'en vont. Une répartition des réfugiés dans ces régions-là peut aussi nous aider à garder peut-être certaines infrastructures. Alors, ce n'est pas du tout dans le choix des personnes qui compte, mais c'est une logique étatique et ça suit les intérêts de l'État.
Sophie Inger, est-ce que vous avez des informations, des chiffres concernant l'accès au travail de ces... Je parlais tout à l'heure dans mon introduction quand nous n'étions pas encore en liaison, mais j'évoquais ces 1,2 million de demandeurs d'asile qui ont débarqué en Allemagne en 2015. Si on regarde ces personnes-là, ce groupe-là, est-ce qu'on a une idée du nombre de personnes qui sont parvenues à accéder au marché du travail ? Moi, je n'en ai pas trouvé, hein, j'en ai cherché, mais peut-être vous en avez.
Oui, non, moi non plus.
J'ai non pas.
Il y a des études qui sont des estimations de combien de personnes vont trouver un emploi dans quelques années. Bon, il y a par exemple ce chiffre que à peu près dans 5 ans, on attend que presque la moitié des personnes va avoir trouvé un emploi.
Ça, c'était la commissaire allemande à l'intégration qui avait donné ce chiffre, hein.
Oui, et également, bon, il y a un institut de recherche sur le travail et le marché de travail en Nuremberg qui a fait une étude là-dessus. Après, c'était aussi il y avait plusieurs conditions. Ce qu'on voit, il y a sur plusieurs échelles, il y a des grands problèmes, puisqu'on voit que le système n'est pas prêt pour des personnes qui n'ont pas suivi une carrière classique. Mmh. Et ce n'est pas d'ailleurs simplement un problème pour les réfugiés, mais pour toute personne qui sort un peu du parcours classique.
Oui, et même pour les gens. Je vous en prie, allez-y, poursuivez.
Oui, c'était juste pour vous donner un exemple. Alors, il y a par exemple beaucoup de demandeurs d'asile qui commencent une Ausbildung. C'est une formation professionnelle, puisque ça a été favorisé par le gouvernement, par exemple en leur donnant plus de sécurité légale. En disant, si vous faites une formation professionnelle plutôt que des études, par exemple, des études supérieures, on vous garantit que vous n'allez pas être expulsé dans le temps, dans la durée de la formation professionnelle. Alors, il y a beaucoup de gens qui se sont engagés dans des formations professionnelles, mais on voit que dans beaucoup de secteurs, les formations ne sont pas du tout adaptées pour un public qui n'est pas, qui ne parle pas parfaitement l'allemand. Et les structures, on est en train de maintenant flexibiliser un petit peu, de voir en fait pour chaque secteur ou pour chaque entreprise, parce que c'est finalement des questions très individuelles.
Ouais. Et puis même pour les gens qui sont particulièrement qualifiés, particulièrement diplômés, parce qu'on a eu parfois cette idée que les réfugiés, et notamment syriens, étaient plus diplômés que les autres, avec beaucoup de médecins, beaucoup d'avocats, sauf que même pour eux, c'est très difficile d'avoir un emploi, parce que bon, il faut maîtriser la langue, il faut passer des équivalences, et à l'arrivée, en réalité, il y a assez peu de ces demandeurs d'asile qui ont un vrai travail, qui correspondent à leurs compétences.
Tout à fait. On voit que surtout pour les personnes les plus qualifiées, c'est très difficile de passer en fait sur le niveau de leur qualification de vraiment rentrer au marché de travail. Après, on voit sur le processus de reconnaissance de diplôme, etc. sur le niveau national est très très long et très compliqué. Après, on voit dans certaines régions, notamment dans les régions où ils ont beaucoup besoin de ce main d'œuvre, par exemple des médecins dans la campagne. On voit que sur le plan local, qu'il y a des petits projets, des procédures qui sont mises en place, et il y a beaucoup d'idées. Il manque juste la volonté et aussi une manière de faire sur le plan national.
Oui, il y a beaucoup d'idées, il y a beaucoup d'initiatives, et pour comprendre justement pourquoi il y en a autant, il faut peut-être remonter un petit peu dans le temps et rappeler ce début des années 60 quand l'Allemagne passe un accord avec la Turquie pour faire venir de la main-d'œuvre, ces fameux travailleurs invités, c'est comme ça qu'on les qualifie à l'époque. On a des dizaines de milliers de Turcs qui viennent pour être employés en Allemagne. Là aussi, il faut peut-être expliquer un peu le contenu même de l'accord et surtout ce qu'étaient à l'époque les mesures qui avaient été prises pour organiser l'intégration de ces travailleurs turcs au sein de la société.
Alors, c'était pas simplement les Turcs, c'était les Grecs, les Italiens, les personnes de la Yougoslavie.
Mais il y avait en particulier un accord avec la Turquie.
Oui, c'est vrai que beaucoup de personnes de la Turquie, on le remarque dans beaucoup de villes, notamment à Berlin, on remarque aussi la présence de cette population turque très forte. C'est vrai. Mais alors, il y avait ces accords-là, et il y avait l'idée que, comme vous le dites, ce sont des travailleurs invités. C'est-à-dire, ce ne sont pas des migrants qui viennent pour rester. Ce sont, on avait mis, ou on avait pensé un système de rotation. Alors, après 2 ans, les personnes devraient rentrer chez eux.
Donc, on n'a pas pensé leur intégration. Il n'y avait pas de dispositif pour les intégrer.
Il n'y avait aucun dispositif à penser, puisqu'on pensait qu'après 2 ans de travail, on pensait qu'on appelait des travailleurs et ne pas des personnes. Alors, après, très vite, on s'est rendu compte que c'était des personnes qui arrivaient, des personnes qui avaient parfois leur famille encore dans leur pays d'origine, qui voulaient faire venir leur famille et qui, petit à petit, même si peut-être eux-mêmes n'avaient pas pensé de départ de rester, mais au fur et à mesure, qui se sont dit, bon, pourquoi pas rester en Allemagne.
Et c'est à partir de là, donc, on a un peu pensé ces politiques d'intégration. Et ça a fonctionné. Les vagues suivantes, je vous en prie.
Ah oui, pardon de vous couper, mais c'est important, je crois, de souligner que c'était très longtemps, c'est-à-dire jusqu'aux années 2000, que sur le plan national, on ne pensait pas à leur intégration. Que c'était vraiment sur le plan local, que c'était des initiatives souvent menées par des citoyens ou des municipalités, souvent en coopération. Et bien sûr aussi les immigrés eux-mêmes qui ont réussi une intégration. Mais ce n'était pas un discours.
Alors, la liaison avec Berlin a l'air d'avoir sauté. Sofinger, est-ce que vous m'entendez ? Non, vous ne m'entendez plus. Vous m'entendez ? Oui, ça y est, je vous entends, on vous a retrouvé. Alors, vous pouvez poursuivre, pardonnez-moi.
Super, je ne sais pas où ça nous a coupé.
Non, la dernière question que je voulais vous poser, vous disiez en gros que c'était dans les années 2000 qu'on avait commencé vraiment à développer des politiques d'intégration en Allemagne.
Tout à fait. Ouais. Mais c'était, en fait, sur le plan local, il y avait des structures déjà mises en place, notamment les initiatives citoyennes, mais aussi des structures mises en place par les municipalités qui existaient déjà depuis les années 70 à peu près.
Merci beaucoup, Sofinger, d'avoir été avec nous ce matin en duplex de Berlin. Alors, parfois, la liaison coupée un petit peu, j'indique aux auditeurs pour qu'ils ne jettent pas tout de suite leur radio de leur cuisine ou de leur salle de bain ou de leur salon. Elle fonctionne encore très bien. On a eu un petit souci aujourd'hui de duplex avec Berlin, mais on a réussi à se parler. Je vous remercie infiniment de nous avoir éclairé sur, en réalité, ces modèles, parce qu'on a compris qu'il y en avait plusieurs des modèles d'intégration en Allemagne. Je rappelle que vous êtes sociologue à l'Institut pour la recherche sur les migrations et les relations interculturelles de l'université d'Osnabrück. Un grand merci à vous, Sofinger.
Und der Sekundenzeiger, kriecht dahin. Es ist widerlich, siehst du nicht, wie ich bin. Ich bin wie alle anderen auf das Ziel besinnt, ein Ziel zu erreichen, das wir bestimmen. Mir ist kalt und ich friere und ich will, dass du mich wärmst. Und der Qualm, den ich ziehe, er fliegt still und viel zu schwer. Keine Liebe als Berührung, bitterlich erkannt. Wenn du schon mein Herz nicht willst, nimm bitte meine Hand. Und du drehst dich beweglich. Meine Dummheit ist einfach zu groß für den Sinn. Und ich dreh mich vergeblich um den Punkt, den ich einfach nicht loslassen will. Mein Verstand steht kläglich im ekligen Regen. Die Gedanken zu wenig, um Leben zu sehen. Und der Fernseher sagt, es wird heute wieder kalt. Doch morgen scheint die Sonne durch die Bäume im Wald. Ich fühl mich wohl in deinen Armen, bin froh, dass du da bist. So wie du da bist, es lohnt sich zu warten, wirst du wohl niemals sagen. So wie du da bist, fühl mich wohl in deinen Armen, bin froh, dass du da bist. So wie du da bist, es lohnt sich zu warten, wirst du wohl niemals sagen. So wie du da bist.
On tourne momentanément cette page concernée qui concerne les démocraties et les preuves des migrations. On poursuivra demain pour un quatrième volet. Pour l'heure, c'est Brice Couturier, le tour du monde des idées.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Alors vous étiez au Vatican hier. Le pape, combien de divisions ? Célèbre phrase évidemment de Staline.
Dans son nihilisme borné, le génial petit père des peuples, comme on l'appelait, de l'église bolchévique universelle, passait ainsi à côté de l'essentiel. Parce que dans le monde moderne, l'influence intellectuelle pèsent autant que les chars d'assaut. Le soft power, celui qui consiste à orienter l'action de ses partenaires dans le sens qu'on souhaite, vaut bien le hard power, celui de leur tordre le bras pour les y contraindre. Le Vatican est une puissance. L'Église catholique est la seule religion du monde contemporain à entretenir un réseau diplomatique mondial. 89 pays possèdent une représentation diplomatique auprès du Vatican et le pape dispose pour participer au concert des nations de ses propres ambassadeurs, 99 nonces apostoliques. La France, bien entendu, a son ambassade auprès du Saint-Siège, Villa Bonaparte, inaugurée après la guerre par Jacques Maritain, et selon la règle fixée par le Vatican lui-même, cette ambassade est clairement distincte de celle accréditée auprès du gouvernement italien qui est situé, elle, Palais Farnese. Alors, en se rendant à Rome hier afin de rencontrer le pape François, Emmanuel Macron n'a pas même adressé un petit coucou en passant à un quelconque ministre italien. Allait-il chercher un allié de revers face à un gouvernement italien clairement passé dans le camp eurosceptique ? L'intéressé lui-même l'a démenti lorsque je lui ai posé la question. Cette visite était prévue de longue date. La demande en avait été faite par l'Élysée bien avant les élections italiennes et qu'elle amène au pouvoir ce curieux attelage de populistes de droite, la Lega et d'ailleurs 5 étoiles. On remarque pourtant que le thème européen a figuré au menu des entretiens entre les deux hommes. Et l'attitude du gouvernement italien sur la question migratoire aura été une occasion rêvée pour Emmanuel Macron et pour le pape François de dire tout le mal qu'il pense du gouvernement de Giuseppe Conte. Le Vatican, qui dispose au cœur de la cité éternelle de son propre micro-État, apparaît plus que souvent dans son histoire comme isolé dans l'Italie actuelle, mais sans doute aussi dans l'Europe actuelle. Ce pape argentin n'aime pas beaucoup les Européens. Il considère que l'Europe est une grand-mère stérile. Les catholiques ont toujours adoré les bébés, beaucoup de bébés. Le pape actuel préfère les pays du Sud, africains en particulier, parce que leur démographie est vibrante. Le suicide démographique de l'Europe lui paraît témoigner d'un manque de vitalité, sa méfiance grandissante envers l'immigration comme un refus raciste du métissage. Grand voyageur, il a parcouru de long en large l'Amérique latine depuis son élection. Il a été à Cuba pour faciliter le rapprochement avec les États-Unis. Il s'est rendu en Israël et dans les territoires palestiniens, en Corée du Sud, au Sri Lanka, aux Philippines, au Kenya, en Ouganda, en Centrafrique, en Arménie, en Géorgie, en Azerbaïdjan, en Birmanie et au Bangladesh, et j'en passe. Mais il a fait l'impasse sur la France et l'Espagne, vieux pays de tradition catholique, alors même qu'il s'est rendu dans deux petits États musulmans d'Europe, l'Albanie et la Bosnie-Herzégovine.
Bah, il finira peut-être par venir. Visiblement, il s'est très bien entendu avec Emmanuel Macron. Mais comment le caractériser, ce pape, Brice ? Politique, mystique, exigeant, accommodant ?
Les papes, un peu comme les présidents de la République française, semblent obéir à de secrets mouvements de balanciers. À l'athlète de la foi, Jean-Paul II, engagé dans la bataille du siècle contre le communisme, avait succédé un pape aristocrate de l'esprit, évoluant dans des hauteurs intellectuelles difficiles à populariser, Benoît XVI. François, le pape jésuite, est lui un pragmatique, une sorte, si vous voulez, de Deng Xiaoping du catholicisme. Qu'importe que les chats soient noirs ou blancs, disait le malicieux petit homme, ce qui importe, c'est qu'elles attrapent des souris. Eh bien, esprit pratique et réaliste, près du sol et près du peuple, le pape, lui, use d'une métaphore voisine. Il faut, dit-il, saisir les ballons qui passent. D'où sans doute une action diplomatique un brin cynique, tournée prioritairement vers la défense des intérêts de l'Église, sa liberté d'action, au détriment parfois des droits de l'homme, à la défense desquels s'était fortement identifié Jean-Paul II. Ainsi, le pape jésuite négocie avec le gouvernement chinois pour une libéralisation du régime des cultes. De son côté, Pékin, comme l'ont souvent fait les régimes communistes, a monté une sorte d'église parallèle à sa botte pour contrer le Vatican. Le gouvernement chinois exige ainsi la reconnaissance de 7 évêques nommés par cette église officielle. Cette affaire est suivie avec beaucoup d'inquiétude à Taïwan, l'autre Chine, où 300 000 catholiques pratiquent leur religion dans une totale liberté et où le vice-président Chen Xianzhen est un catholique pratiquant. Car on le sait, le prix exigé par Pékin pour une installation officielle d'un nonce apostolique est la rupture des relations diplomatiques officielles avec Taipei. Les évêques taïwanais ont été reçus au Vatican en mai dernier. On ne sait pas quels éclaircissements le pape a pu leur donner sur le risque d'abandon qui les menace, assez peu conforme, vous en conviendrez, avec la générosité chrétienne. L'archevêque Hung Shan Chuan s'est contenté d'observer. Pour négocier, il faut partager des valeurs communes. Un livre assez critique sur la fin du pontificat du pape François vient de paraître aux États-Unis. Dans « To change the church », Rose Douthat du New York Times écrit que François, par son volontarisme, menace gravement l'unité de l'Église. Habitué à monter des structures parallèles, à n'en faire qu'à sa tête aussitôt qu'il a pris ses décisions, il voit monter les frondes locales. C'est notamment le cas au Nigeria, où le pape a dû se résigner à la démission d'un évêque qui avait sa confiance, Peter Okpaleke, et au Chili, où le soutien du pape à l'évêque Juan Barros, accusé d'avoir couvert des affaires de pédophilie, exaspère le clergé local.
Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site de France Culture.